Si on nous a conduit ce matin dans la première partie de ce culte avec cette perspective du retour du Seigneur qui est notre perspective commune de chrétiens, de croyants, eh bien c'est une période qui s'y prête bien, hein, ce temps de l'Avent. Le texte que je vous invite à lire ce matin est aussi dans cette perspective et nous le trouvons dans l'épître de Jacques, dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, les versets 7 à 11. Nous lisons Jacques 5, versets 7 à 11. Prenez donc patience, mes frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les produits précoces et tardifs. Vous aussi, prenez patience. Affermissez votre cœur, car l'avènement du Seigneur s'est approché. Ne soupirez pas les uns contre les autres, mes frères, pour que vous ne soyez pas jugés. Le juge se tient aux portes. En matière de souffrance et de patience, mes frères, prenez pour exemple les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Vous avez entendu parler de l'endurance de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de magnanimité. L'horizon du chrétien, notre horizon, c'est la venue du Seigneur. C'est là que s'accomplira pleinement notre espérance. Nous sommes dans l'attente de ce jour. Et dans cette perspective, il y a une qualité essentielle que tout croyant, tout chrétien est appelé à développer, une qualité à laquelle Jacques, ici, dans ce passage, nous invite, c'est la patience. La patience dans l'attente de ce jour. Et Jacques, ici, va prendre deux illustrations, deux images, deux comparaisons pour nous inviter à la patience, celle du cultivateur et celle des prophètes, et en particulier du personnage de Job. Et Jacques ici nous invite à avoir à la fois la patience du cultivateur et celle de Job. Le cultivateur est patient. Il est patient parce qu'il attend le jour de la récolte. Il sait bien que le jour viendra, mais il ne peut pas anticiper ce jour et donc il est obligé d'attendre que le moment de la récolte soit venu pour pouvoir aller dans les champs et récolter ce qui a poussé. Pourtant, cette patience du cultivateur ne se fait pas les bras croisés. Il sait bien que les choses ne se font pas comme ça, comme par enchantement, mais le cultivateur va travailler la terre d'abord, il va ensemencer le champ, il va entretenir le champ, surveiller la façon dont le champ va commencer à pousser, jusqu'au jour où il va pouvoir récolter le fruit de son labeur. Le cultivateur est en travail, il travaille en attendant l'attente du jour de la récolte. Sa patience même se manifeste non pas dans l'inactivité, mais dans un travail persévérant et patient. L'avènement du Seigneur, dans cette image, dans cette comparaison, apparaît comme une récolte, et même une récolte abondante, puisque Jacques évoque des produits précoces et des produits tardifs. Une récolte qui viendra en son temps. L'éclosion finale de tous les fruits du royaume de Dieu. D'ailleurs, cette expression que Jacques utilise ici, l'avènement du Seigneur s'est approché, évoque étrangement ces paroles de Jésus répétées à plusieurs reprises dans les évangiles, le royaume de Dieu s'est approché. Et c'est une façon de dire que le royaume de Dieu, avec la venue de Jésus, s'est mis en marche. Et il est aujourd'hui dans un temps de croissance. La semence du royaume est en train de croître. Et l'avènement, la venue, le retour du Seigneur correspondra au jour de la récolte où cette semence du royaume aura atteint sa pleine maturité et où le moment sera venu de récolter tous les fruits du royaume de Dieu. Si nous avons une application à tirer de cette image de la patience du cultivateur, ce serait peut-être celle qui nous invite à laisser le temps, laisser du temps aux fruits pour qu'ils poussent. Le fruit ne se récolte pas aussitôt semé. Il faut du temps, il faut toute une saison. Pourquoi en serait-il autrement dans notre vie, dans notre Église, dans notre témoignage? Pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir tout de suite? La réponse de Dieu tout de suite. Le fruit immédiatement à notre témoignage. Que tout de suite notre Église grandisse et les locaux deviennent trop petits pour la remplir. Que tout de suite nous soyons des chrétiens modèles parfaits, sans défauts et sans tâches. Pourquoi voudrait-on tout de suite? Il faut du temps. Il faut du temps pour que les fruits arrivent et que l'on puisse les récolter. Il faut du temps, et comme le cultivateur, il faut un travail patient. Ne vous attendez pas à porter du fruit pour Dieu dans votre vie si vous ne travaillez pas à votre communion avec lui. Ben oui, il faut un travail patient. Ne pensez pas que vous allez porter beaucoup de fruits si vous ne vous souciez pas du Seigneur dans votre vie, si vous ne passez pas du temps avec lui. N'espérez pas que notre Église porte du fruit si vous ne vous y investissez pas, d'une manière ou d'une autre, si vous ne faites pas votre part de travail patient, dans la prière, dans l'action. Il n'y a pas de miracle, excusez-moi de le dire comme ça, il n'y a pas de miracle. Il faut travailler, il faut mettre la main à la pâte, et c'est dans un travail patient que se manifestera aussi notre patience. Et puis il faut du temps, parce que si malgré cela, malgré le travail, les efforts que l'on peut faire dans notre vie personnelle, dans notre vie d'église, dans notre témoignage, dans notre vie de tous les jours, si malgré tous ces efforts que l'on fait, on a l'impression que le temps est long quand même, on a l'impression que les choses ne bougent pas beaucoup, que les fruits ne viennent pas, bien n'oubliez pas la promesse de Dieu. Ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Le cultivateur sait que, bon an, mal an, la récolte viendra. Alors c'est vrai que certaines années, la récolte sera meilleure que d'autres, mais elle viendra, en son temps. Ce n'est pas toujours exactement au même moment. Il faut du temps, mais la promesse est là. La récolte viendra. Les promesses de Dieu pour notre vie sont là aussi. Et si nous nous mettons au travail patiemment et dans la confiance, les fruits viendront en leur temps, au temps de Dieu. C'est une promesse. Je crois que c'est la perspective de Jacques aussi dans cet épître. C'est la patience du cultivateur que nous avons à avoir, une patience dans le travail, dans l'attente du jour de la récolte où nous trouverons les fruits. Mais il y a aussi la patience de Job dans ce texte. Une patience qui est associée à la souffrance. Job, bien sûr, c'est la figure dans l'histoire biblique de celui qui souffre de manière injuste, lui qui pourtant est innocent, ne mérite pas sa souffrance, mais qu'il subit une souffrance extrême. Et son histoire nous montre que, malgré cette souffrance extrême, il a démontré une patience par l'endurance de la souffrance, par la persévérance à rester attaché au Seigneur malgré tout. Alors, ça n'a pas été tous les jours facile, on sait les questions et les doutes même que Job a exprimés. Mais malgré tout, il a montré de la patience, de l'endurance dans l'épreuve. Jacques, d'ailleurs, en évoquant Job, insiste sur la fin de l'histoire, la fin que Dieu lui a donnée. Autrement dit, Jacques souligne le fait que Job, finalement, a trouvé la guérison parfaite, l'abondance retrouvée, alors qu'il était au cœur de l'épreuve, de la souffrance. Et en insistant sur la fin de l'histoire de Job, Jacques veut insister pour nous, sur l'avènement du Seigneur, le retour du Seigneur, apparaissant en parallèle avec cette histoire de Job comme le jour de la délivrance, le jour du soulagement, enfin, de toutes nos souffrances que nous pouvons vivre, le jour de la fin de toute souffrance, le jour où tout ce qui est de l'ordre de l'épreuve aura disparu, le temps de la consolation et le temps des récompenses en quelque sorte. Et la patience de Job nous invite à ne pas nous laisser décourager. Ne pas nous laisser décourager par l'épreuve, par les épreuves que nous tous, nous sommes appelés à vivre. C'est vrai, certains sont plus éprouvés que d'autres. Certains, parfois, ont l'impression qu'ils cumulent les souffrances et les épreuves. Ben, c'était le cas de Job. Et pourtant, regardez la fin que Dieu lui a accordée. Même dans les plus dures souffrances, la promesse de Dieu demeure. Une promesse de vie éternelle en sa présence. Même quand il n'y a rien dans le présent, aucun espoir, regardons à la fin, à la délivrance qui vient. C'est la promesse des prophètes, à plusieurs reprises. Promesse reprise dans l'Apocalypse, lorsqu'il est dit que, au dernier jour, le Seigneur essuiera toute larme de nos yeux. Nous avons là la promesse que malgré toutes les épreuves et les souffrances que nous pouvons connaître, nous avons une fin heureuse qui nous attend. Et n'oublions pas de considérer que finalement, un croyant qui traverse une épreuve, une souffrance, avec patience, en restant attaché à Dieu, en gardant son espérance, dans la paix, dans la confiance, eh bien c'est un témoignage au moins aussi fort que celui d'une guérison miraculeuse au cœur de l'épreuve. C'est aussi une façon par laquelle Dieu se manifeste dans une vie et à travers une vie. Mais vous aurez peut-être remarqué que je n'ai rien dit encore du verset 9. Un verset qui semble, au premier abord, arriver comme un cheveu sur la soupe. Au milieu de ces considérations sur l'avènement du Seigneur, Jacques insère une mise en garde à ne pas soupirer les uns contre les autres. Ne soupirez pas, ne gémissez pas les uns contre les autres. Mais pourquoi est-ce que Jacques parle de cela au milieu de ces deux images de la patience? Il me semble que cette exhortation souligne, et c'est une préoccupation de Jacques dans toute son épître, la préoccupation concrète, pratique, cela souligne l'impact pratique de notre espérance dans nos relations les uns avec les autres. Si nous sommes appelés à la patience dans l'attente du retour du Seigneur, c'est pour que cette patience se manifeste aussi dans nos relations les uns avec les autres. Si nous nous montrons patients dans l'attente de l'avènement du Seigneur, comment pourrions-nous ne pas être patients les uns envers les autres? La patience du cultivateur, nous devons la trouver aussi dans nos relations. C'est laisser le temps à l'autre de changer, d'évoluer. Laisser le temps à l'autre de se laisser changer par Dieu. Laisser le temps chez l'autre pour que le fruit de l'œuvre de Dieu puisse grandir. N'attendons pas des autres ce que Dieu n'attend même pas d'eux. Renonçons au jugement de notre frère, de notre sœur. C'est ainsi lui laisser le temps d'évoluer. Laisser le temps au Seigneur d'agir dans sa vie et dans son cœur. Ne pas mettre la pression tout de suite sur les nouveaux convertis pour que rapidement ils intègrent le profil idéal du chrétien parfait, se coulant dans le moule du bon chrétien, dans leurs paroles, dans leurs attitudes, dans leur vie de tous les jours. Laissons-leur le temps. Laissez le temps en acceptant que tel frère, telle sœur se débattent parfois depuis de longues années avec tel problème particulier, tel péché, et ne pas pour autant mettre en doute l'authenticité de sa foi et de sa conversion. laisser le temps, la patience du cultivateur pour cultiver des relations saines et paisibles les uns avec les autres. Et puis, je crois que dans nos relations, il y a aussi quelque chose de la patience de Job qui nous donne de pouvoir endurer les tensions, y compris dans l'Église, sans tout balancer. Alors évidemment, ces tensions, je ne parle pas de notre Église en particulier, je parle de l'Église en général, des relations entre les chrétiens, elles existent. Elles sont là, elles sont parfois source de souffrance, de difficultés, ces tensions. Parce que bon, les relations humaines ne sont pas toujours faciles, ça existe aussi dans l'Église. Et on peut s'attrister, on peut peut-être même souffrir de ces tensions qui peuvent exister, sans pour autant, tout balancer, quitter l'Église, renier sa foi, parce que ça ne va pas dans les relations entre chrétiens. Est-ce qu'il n'y a pas de la patience de Job à avoir, à endurer ce type de souffrance-là aussi, de la vie chrétienne, dans nos relations parfois difficiles, parfois tendues, et d'en profiter plutôt que de tout balancer, plutôt que de tout renier, de prier et d'œuvrer pour la réconciliation et pour la paix. Voilà quelques réflexions auxquelles ce texte de Jacques peut nous conduire. La foi chrétienne, notre foi, est caractérisée par l'espérance. Et pour le croyant, le royaume de Dieu est en marche dans l'histoire. Et au jour de la venue du Seigneur, ce royaume sera pleinement établi. C'est aussi certain que chaque année, le temps de la récolte vient. À cause de cette espérance, la patience est une vertu essentielle pour le chrétien. En tant qu'ouvrier pour Dieu, dans le champ de son royaume, il nous faut la patience du cultivateur. Le fruit viendra en son temps. Et parce que la vie aujourd'hui est faite aussi d'épreuves et de souffrances, il nous faut la patience de Job pour ne pas nous laisser décourager par ces épreuves. Et si cette espérance est véritablement ancrée dans notre vie et dans notre cœur, alors elle aura un impact dans nos relations, dans notre quotidien. Nos relations pourront être marquées par la patience et témoigner de cette espérance que nous avons en commun. Amen.